Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des différentes évolutions tactiques en termes intellectuels dans la Première Guerre mondiale entre les différents adversaires. Alors en préambule, je vais quand même vous faire remarquer que je vais me concentrer sur le front ouest, donc qui a opposé la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne majoritairement. Mais il ne faut pas se laisser avoir sur le préjugé qui sous-entendrait que la Première Guerre mondiale s'est majoritairement déroulée ici. Il y a le front russe qui, à la fin de la guerre, s'effondrera, il y a le front italien, il y a le front moyen-oriental, il y a le front de la Yougoslavie, il y a le front de l'Europe de l'Est, il y a même plusieurs combats en Afrique ou en Océanie. Donc on va pas, faut pas oublier tous ces conflits qui ont fait une part essentielle de la Première Guerre mondiale. Donc, je vais vous parler en plusieurs points. D'abord, je vais vous redonner un peu de contexte parce qu'on va se concentrer sur la fin de la guerre, notamment 1918, et voir comment les évolutions tactiques auront été implémentées dans cette dernière année et quelles auront été les conséquences. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, en premier point, je vais vous parler de la nouvelle place de l'infanterie dans la guerre, qui va vraiment devoir se trouver un nouveau rôle en coordination avec les différentes armes qui, elles, vont devenir beaucoup plus importantes, comme l'artillerie, l'emploi des chars, l'aviation. Le deuxième point, ça va être la réflexion sur l'emploi du moteur et voir comment en fait on a réussi à comprendre quel emploi on peut faire des camions, des chars, de l'avion et quelle est leur véritable utilité sur le champ de bataille. Et en dernier point, je vais vous parler un petit peu aussi de la guerre industrielle qui aura été menée et comment en fait on a une véritable guerre matérielle qui va se mener. Là où la France est entrée dans cette Première Guerre mondiale avec un esprit antimatérialiste qui voulait mettre en avant l'élan de l'homme et des forces françaises. Et je terminerai du coup en vous parlant de l'année 1918, puisque c'est l'année où se confrontent toutes ces idées et où on voit le mieux les conséquences de toutes ces réflexions. Bon alors, on va se mettre au début de 1918. Et ce qu'il faut voir en premier lieu, c'est que la Russie est sortie du conflit. À partir de là, l'armée allemande peut enfin se concentrer sur le front ouest et va rapatrier en masse des divisions pour s'opposer à la France et à la Grande-Bretagne, ce qui va lui donner un avantage numérique assez fort. Mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que ça fait 2 ans et demi que les troupes sont enterrées dans des tranchées et qu'on a une guerre de position qui dérange les deux parties en fait. On n'arrive pas à avancer. Ça coûte extrêmement cher de mener des offensives. Et du coup, il va y avoir deux questions qui vont se poser au courant 1915, 1916, 1917, qui seront comment mieux défendre, c'est-à-dire avoir le moins de pertes possible tout en arrivant à écraser l'attaque adverse sans perdre de terrain, et comment revenir à une guerre mobile, et donc quelles sont les forces et les éléments qu'on peut employer pour enfin briser cette guerre de tranchées et après prendre l'avantage grâce à la mobilité retrouvée. Donc pour la défense, le pays qui va le plus faire de progrès intellectuels, c'est l'Allemagne, notamment avec le travail de Ludendorff et de Hindenburg, puisqu'on va avoir la ligne Hindenburg qui va être mise en place en 1916. Et qui va mettre en avant ce qui s'appelle la défense en profondeur. Alors la défense en profondeur, le concept est d'essouffler l'attaque adverse en opposant d'abord une première ligne où les différents postes de mitrailleuses peuvent se soutenir mutuellement, mais qui n'est pas destinée à être tenue. En réalité, tout est construit pour permettre à toutes les troupes allemandes qui défendraient cette première ligne de revenir en arrière sur la deuxième ligne de défense qui, elle, est véritablement là pour accueillir les forces adverses. Cette deuxième ligne est censée être hors de la portée de l'artillerie adverse qui, jusqu'alors, est très peu mobile. À partir de ce moment, tous les tirs de barrage, tous les tirs de préparation des offensives, qu'elles soient françaises ou britanniques, sont inefficaces face à la véritable puissance défensive des forces allemandes. Et il y a une troisième ligne qui garde en réserve beaucoup de troupes qui seront très fraîches, et grâce à l'essoufflement très fort des troupes adverses, elles vont pouvoir déferler dans une contre-attaque et reprendre même la première ligne de défense, ce qui fait qu'à la fin, on aura très peu de pertes du côté allemand et énormément de pertes du côté adverse, puisque celles-ci se seront empêtrées dans un champ qui ne sera même pas tenu par des êtres vivants et va finir par prendre une contre-attaque dans son essoufflement. Alors du coup, ça, c'est une défense qui est beaucoup plus flexible, qui est pensée de manière géométrique, et les Français et les Britanniques vont prendre assez longtemps à le récupérer à leur compte. Majoritairement du côté français, c'est Philippe Pétain qui va chercher à l'imposer, et finalement, on va le voir dans l'année 1918, peu de commandants et généraux français vont suivre ces directives, ce qui va avoir de mauvaises conséquences sur la défense de ces offensives de mars 1918. Et donc la deuxième question, c'est comment revenir à la guerre mobile? Et donc en fait, comment briser le front adverse et exploiter les différentes failles qu'on aura réussi à y créer? Alors là-dessus, on aura plusieurs réponses. En fait, on a une réponse par pays sur le front ouest. La réponse allemande, elle est contextualisée avec leurs moyens, mais ça on le verra plus tard. Elle se compose d'une armée d'assaut et d'une massification de l'emploi de l'artillerie. Donc d'une manière générale, on est dans une vision assez classique par rapport au début de la guerre, qui est la recherche de la bataille décisive, où on va masser énormément les troupes allemandes, les faire se déplacer avec un soutien de l'artillerie qui va pouvoir suivre leur avancée et qui va énormément préparer le terrain par plusieurs heures de bombardement massif, qui ne cherche pas la destruction mais la neutralisation des forces de défense de l'adversaire. Ajoutez à ça le concept de force de choc avec les Sturmtruppen, qui elles sont ici pour faire de l'infiltration dans les lignes adverses en préparation du combat. Ces infiltrations, comme les défenses sont en général construites pour recevoir une attaque de masse, sont là pour perturber profondément en fait la communication et la capacité d'adaptation à l'attaque. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que les Allemands ont énormément pensé l'emploi des gaz dans leur bombardement de préparation avec l'artillerie. On emploie en fait différents gaz en trois types. Des gaz non létaux et qui ne restent pas sur le terrain pour déjà préparer, blesser un maximum de troupes et forcer un repli d'une manière générale. Des gaz létaux qui ne restent pas non plus sur le terrain, qui sont là pour attaquer d'abord le centre en fait, du dispositif adverse, c'est-à-dire là où on va pouvoir mener l'attaque. Et enfin, des gaz létaux et qui restent sur le champ de bataille, qui sont en fait là pour couvrir les ailes. On les tire en général sur les extérieurs de la future attaque pour empêcher des soutiens mutuels de la part du réseau défensif adverse. Ce qui va permettre en fait aux troupes, à l'armée d'assaut, de se concentrer sur un seul point de la ligne adverse et créer une rupture. Une fois qu'on a créé la rupture, le but c'est d'occuper le plus rapidement le terrain et de créer un trou dans ce front qui va soit forcer les adversaires à se replier d'une manière générale, soit va mener à la création d'une poche qui permettra l'entrée de l'armée allemande dans le dispositif adverse. Alors, après, on a l'approche anglaise. Les Anglais, d'une manière générale, se sont beaucoup plus concentrés sur la question comment employer les chars et ils se sont rendus compte, après la bataille de la Somme en 1916, qui va être un échec de l'emploi du char, que ces derniers avaient un intérêt quand ils étaient employés en masse, mais n'avaient pas de capacité de tenir le terrain. C'est-à-dire que finalement, le but de l'infanterie, ça va être d'occuper le terrain que les chars vont réussir à leur ouvrir. C'est majoritairement la bataille de Cambrai en 1917 que cet emploi va être le plus mis en avant et qu'on va enfin comprendre cet intérêt. C'est 476 chars d'assaut qui vont être utilisés par les Britanniques, qui vont réussir avec leur emploi en masse, en fait, à créer une véritable rupture dans le front allemand. Et ensuite, c'est l'infanterie qui doit occuper le terrain. Malheureusement, Cambrai sera quand même un échec puisque la contre-attaque allemande sera très bien menée et que la coordination entre l'infanterie et les chars aura un petit peu peiné. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a plusieurs leçons qui vont devoir être retenus pour pouvoir utiliser les chars. Tout d'abord, il ne faut pas trop tirer à l'artillerie pour préparer l'attaque des chars, pour la simple et bonne raison que le sol trop labouré empêche des chars qui sont encore un petit peu non efficaces ou capables de faire des pannes assez régulièrement, de passer. Donc à partir du moment où on ne fait pas un bombardement trop profond, on a une terre un peu plus solide qui permet de recevoir les chenilles des chars, et on a un emploi en masse qui va pouvoir donner une véritable percussion. Dans l'ensemble, les chars sont extrêmement bruyants et aussi extrêmement lents, puisque les chars anglais vont à la vitesse du pas de l'homme. À partir de là, il faut pouvoir les couvrir aussi d'un point de vue du bruit. Et c'est pour ça que les Anglais ont l'idée de couvrir l'attaque des chars par des flots d'aviation qui n'ont pas nécessairement d'intérêt tactique ou stratégique, puisqu'on n'a pas un emploi très massifié du bombardement comme dans la Seconde Guerre mondiale, mais qui vont permettre de couvrir la zone où les chars vont attaquer et qui vont empêcher les Allemands, qui avaient déjà commencé à réfléchir à des contre-mesures contre les chars, de réagir et de s'adapter. À partir de cette idée, on a une infanterie qui n'est plus là pour créer la rupture du front adverse. Autrement dit, elle n'a pas besoin d'être extrêmement mobile, elle n'a pas besoin de courir vers la ligne adverse, puisque ce sont les chars qui vont s'occuper de cette mission. Et les Britanniques ont donc l'idée de les armer avec des armes beaucoup plus lourdes, des mitrailleuses, certes portables, mais beaucoup plus lourdes que des simples fusils. Et à partir de là, on a une infanterie britannique qui va se déplacer plus lentement, mais qui sera beaucoup plus capable d'occuper des terrains qui n'étaient pas les leurs avant. En installant très rapidement leurs mitrailleuses portatives, ils vont pouvoir empêcher les contre-attaques allemandes aux endroits que les chars leur auront permis d'occuper. Et c'est ça justement qui va jouer un rôle important dans la doctrine d'emploi des Anglais, puisque la défense en profondeur allemande du côté britannique sera un peu brisée par cette dynamique où une infanterie qui n'aura pas perdu d'énergie ni de puissance de feu en attaquant la ligne, va pouvoir recevoir la contre-attaque allemande de la troisième ligne de la défense en profondeur. On notera aussi que les chars remplissent plusieurs autres missions, comme la couverture de l'infanterie. On s'est beaucoup posé la question de à quelle distance l'infanterie devait se trouver des chars, puisqu'on avait remarqué qu'ils concentraient les feux sur eux. Et également, on accrochait des ancres à l'arrière des chars dans le but d'emporter les barbelés sur leur chemin et pour ouvrir un tracé beaucoup plus facile à employer pour l'infanterie, puisque les barbelés étaient employés de manière omniprésente dans la ligne Hindenburg. Et enfin, on a la solution française qui, elle, va beaucoup plus miser sur la coordination et la mobilité des troupes. D'une manière générale, la France est le pays qui motorise le plus son armée. Et ça, on le verra plus tard par rapport aux chiffres de la production de camions. Mais la doctrine française se base énormément sur la possibilité de déplacer les troupes entre les différents points chauds, ainsi que l'artillerie. L'artillerie sera énormément motorisée. Et ça va permettre de mettre en place une tactique générale qui va s'appeler la tactique du feu roulant. Avec une coordination bien mise en place entre les différents corps d'officiers de l'infanterie et de l'artillerie, on va permettre à une artillerie très mobile de suivre l'assaut de l'infanterie. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de l'avancée des troupes françaises, le feu de l'artillerie va également avancer. Et ça a des intérêts sur plusieurs points. Déjà, ça permet perpétuellement de préparer la future attaque de l'infanterie, alors qu'en général, celle-ci se retrouvait isolée après la première ligne prise. Et deuxièmement, ça va surtout perturber le repli des Allemands. Sur la défense en profondeur de la ligne Hindenburg, je vous rappelle qu'il fallait passer de la première à la deuxième ligne de manière totalement mécanique, et en général, la deuxième ligne était hors de portée de l'artillerie. Et bien avec la tactique du feu roulant, cela devient faux. Une fois que l'infanterie a déjà repousser la première ligne allemande, l'artillerie est tout de suite prête à attaquer la deuxième ligne et a déjà commencé à bombarder la zone entre la première et la deuxième ligne, ce qui désorganise énormément les troupes allemandes. Ensuite, ce qu'il faut remarquer, c'est que les Français font un énorme effort de coordination entre les différentes armes, que ce soit l'artillerie, l'infanterie, les chars ou l'aviation. D'ailleurs, on peut remarquer que les chars Renault FT auront des radios à la fin de la guerre, ce qui va permettre de coordonner très facilement les différents assauts. L'aviation va être perpétuellement utilisée en soutien des différents assauts, étant donné que les Alliés vont réussir à s'octroyer la maîtrise du ciel, mais c'est ce qu'on verra plus tard avec la guerre industrielle. Alors ce qu'il faut voir du coup, c'est que toutes ces idées tactiques, stratégiques de l'emploi des différents éléments, c'est aussi contextuel. Ici, on a un énorme différentiel dans l'approche de l'emploi du moteur. La France va motoriser, comme je vous l'ai dit précédemment, l'infanterie, l'artillerie, va avoir des chars, va avoir des avions. L'armée allemande, elle, reste énormément sur une doctrine d'emploi du rail, Alors, le rail, ça a plusieurs intérêts, certes, notamment au début de la guerre, qui va leur permettre d'être très rapide, mais c'est beaucoup moins malléable qu'une logistique routière, puisque il est plus facile de tenir des routes que des rails. Les rails, avec un bombardement, malheureusement, ça devient très vite inemployable. En plus, les lignes sont faciles à lire, donc on sait où les Allemands sont capables de mener des troupes. Et ça a une conséquence directe sur la pensée militaire des deux pays. L'Allemagne a une vision de massification et donc d'emploi très forte de la puissance sur un point donné, donc une bataille décisive, ce qui va rester dans l'esprit allemand. Alors que les Français ont une vision beaucoup plus malléable. Ils gardent énormément de divisions en réserve, puisqu'ils sont capables de les porter sur n'importe quel point chaud du front assez rapidement, grâce à cette motorisation. Pareil pour l'artillerie, et ça on va voir plus tard pourquoi ça a une énorme influence. Alors, ce qui permet de voir que les Français ont appris la leçon de la motorisation et ont décidé de le mettre en place, c'est Verdun. Philippe Pétain, quand il reprend cette bataille à son compte en 1916, met en place ce qui s'appelle la voie sacrée, une route qui va être véritablement sacralisée pour permettre à des milliers de camions de faire des allers-retours entre le front et l'arrière, amenant hommes, matériel, mais aussi rapportant blessés et hommes en permission. En 1916, c'est la première fois qu'on met en place une telle route. En 1918, l'armée française est capable de maintenir six voies sacrées sans aucune question logistique, c'est-à-dire qu'elle a véritablement mis en place un système cohérent qui permet de faire ces mouvements. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette mobilité, elle est pensée également au sein de l'armée. Par exemple, les unités d'artillerie sont toutes standardisées, elles ont toutes le même nombre de canons, les mêmes objectifs, les mêmes doctrines d'emploi. C'est-à-dire que chaque unité d'artillerie est capable de changer de théâtre d'opération sans avoir de problème de flottement, sans avoir à s'adapter. On sait déjà quelle est sa mission, elle est déjà capable de faire ce qu'elle a à faire. Et tout le monde sait à quoi elle va servir en venant sur ce point. Et ça a des conséquences importantes, car ce qu'il faut remarquer, c'est que l'armée française a beaucoup moins de canons que l'armée allemande. 5 000 canons contre 12 000. Pourtant, en 1918, elle sera capable de tirer autant d'obus que l'armée allemande. Et ça, c'est rendu possible justement grâce à cette mobilité. Un canon français est sur plusieurs points très rapidement, ce qui lui permet d'être perpétuellement utile, d'être perpétuellement en action. Là où les canons allemands ne sont amenés que par chemin de fer, doivent être massés pour ensuite être utilisés pour essayer de créer un surplus qui permettra la rupture du front adverse. Alors cette grande mobilité rendue possible par les moteurs, ce qu'il faut voir, c'est que ça soulève une question parmi les historiens. Est-ce que les Français ont inventé l'art opératif? Alors l'art opératif a été véritablement formalisé par les Russes durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, les Français en ont eu un petit pressentiment. Qu'est-ce que c'est que l'art opératif? L'art opératif, c'est une manière de coordonner les actions à l'échelle stratégique, c'est-à-dire au-delà des batailles, pour obtenir un effet stratégique. On frappe sur plusieurs points, sans nécessairement chercher une énorme massification, c'est tout le contraire de la bataille décisive en fait, et à la fin, on obtient un effet stratégique global. Pour clarifier tout ça, je vous demande d'attendre la fin de la vidéo et vous verrez très bien comment l'année 1918 en est un excellent exemple. Alors, autre point sur la motorisation, on peut parler du char Renault FT-17 du côté français. Ce char est un char léger, qui est complètement à l'opposé des premiers chars britanniques et de la réaction allemande, puisque ces deux derniers chars sont des chars qui sont gros, qui sont là pour transporter énormément d'hommes, hein. Le char allemand est opéré par 17 personnes. Le char FT, lui, n'est opéré que par 2 personnes et est extrêmement innovant dans le sens où c'est le premier à avoir une tourelle rotative à 360 degrés. C'est le début du char moderne en réalité. Et cette légèreté montre très bien que les Français cherchent à conserver la mobilité. Le char FT est là pour pouvoir suivre les camions d'infanterie. Et donc, pouvoir aider là où les combats d'infanterie vont être menés. À partir de là, on voit très rapidement venir les prochaines doctrines qui seront à l'origine du type de guerre de la Seconde Guerre mondiale. Alors pour finir sur la motorisation, on peut parler de l'aviation qui va être massifiée, notamment du côté français. On a les premiers bombardements stratégiques, mais ces derniers n'ont pas énormément d'intérêt militaire, même si ça fait mal au moral de l'adversaire. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on coordonne énormément les opérations avec l'aviation. À partir du moment où les Alliés vont prendre le dessus dans les airs, il va leur être possible de surveiller complètement le dispositif de déploiement allemand, qui, je vous le rappelle, était rendu relativement lent par leur emploi des rails. À partir de là, chaque attaque massifiée censée être une surprise du côté allemand sera assez facilement contrée, notamment du fait de la grande mobilité des réserves françaises. L'aviation sert donc de soutien et en général coordonnée avec les chars, puisque ce sont les deux seuls éléments mobiles à être munis de radio. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, et ça va m'amener sur mon dernier point avant de vous parler de l'année 1918, c'est que toute cette motorisation est rendue possible par une victoire réellement industrielle. En 1918, l'armée française est dotée de 3600 avions contre 3000 du côté allemand. Elle a 2300 chars à opposer à seulement quelques dizaines. Et enfin, pour les camions, nous sommes à 88 000 contre 40 000, ce qui prouve bien que l'armée française a vraiment misé sur la mobilité plutôt que sur la masse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au début de l'année 1918, les Allemands ont trois fois plus de canons et sont bien plus nombreux en termes de nombre d'hommes. Et pourtant, l'armée française sera capable de compenser. Alors ce qu'il faut du coup voir, c'est que cet emploi de matériel, avec un énorme avantage du côté français, excepté du point de vue de l'artillerie, s'est rendu possible grâce à un emploi, un effort énorme pour ce qui est de l'industrie et du développement de l'industrie. Il y a une standardisation totale de chacune des pièces, de chacun des éléments qui seront employés par l'armée française, ce qui permet de massifier et de standardiser la production. D'ailleurs, l'État abandonne ses prérogatives là-dedans en organisant plutôt des sociétés privées en groupes de production, ce qui va permettre, encore une fois, de standardiser toute la ligne et d'arriver à une production extrêmement efficace. Alors cette réussite, il faut bien entendu donner des gages. L'Allemagne est tout de même en train d'étouffer du fait de la guerre maritime menée avec l'Angleterre et de tous les blocus qui l'empêchent de s'approvisionner en fer ou en pétrole. De son côté, on peut tout de même donner pas mal de points à la France, puisque cette dernière arrive à relancer son industrie malgré l'occupation du nord du pays, qui est tout de même son bassin minier et industriel de l'époque. Et tout cela m'amène directement à l'année 1918, où nous pouvons observer directement sur le terrain la confrontation de toutes les idées que j'ai pu vous présenter. Alors, pour vous redonner un peu de contexte, en début 1918, la Russie est sortie du conflit et le front italien a été complètement perturbé par le désastre de Caporetto, qui a redonné la main aux Austro-Hongrois. Autrement dit, les Alliés, au début 1918, sont complètement sur la défensive face à l'Allemagne qui, en ayant enfin pu renvoyer la quasi-totalité de ses divisions sur le front ouest, se veut une victoire rapide car elle voit les Américains arriver en masse et a peur de cette nouvelle capacité de combat que les Alliés pourraient très rapidement leur opposer. Bon, alors il faut très vite remarquer d'ailleurs que l'armée américaine n'est pas vraiment opérationnelle, même si cela fait une petite année qu'elle s'entraîne et que les Français notamment leur transmettent leur expérience, leur appui, leur poids dans le conflit sera finalement assez négligeable, malgré quelques réussites, il faut bien le leur accorder. Pour vous donner une idée du surnombre, en mars 1918, c'est 192 divisions allemandes qui sont opposées à 171 divisions alliées. Et en mai, on passe à 204 contre 180. Autrement dit, les Allemands ont réellement l'avantage et l'initiative. Et ça, les Alliés le savent. Pétain a déjà essayé de transmettre à ses généraux l'idée de défense en profondeur. Et il faut remarquer que certains ne l'ont pas écouté. Heureusement, il a quand même mis en réserve 40 divisions et il va jouer sur les camions, justement, pour pouvoir compenser les différentes faiblesses de ce début d'année face aux offensives allemandes. Le 21 mars 1918, les Allemands attaquent en masse sur plusieurs points, notamment du côté de la Somme. Et c'est le front britannique qui va d'abord craquer et va permettre une avancée assez importante du côté allemand. Mais la réaction de Philippe Pétain est rapide. Grâce à la mobilité de sa réserve, il va pouvoir opposer des troupes et une artillerie organisée de manière cohérente pour endiguer l'avancée allemande. Ces derniers y auront laissé beaucoup d'hommes, à peu près autant que les Alliés. Et surtout, ils auront laissé une bonne partie de leurs troupes de choc. Autrement dit, l'avantage qu'ils avaient essayé de se donner dans leur idée d'avoir des troupes d'infiltration a très vite fondu et n'a pas donné d'avantage décisif, puisqu'ils n'ont pris aucun point clé et n'ont pas réussi à couper certaines lignes logistiques. Ils n'ont même pas réussi à séparer les Britanniques des Français. Ils vont quand même tenter d'autres attaques. Certaines, comme les Flandres, vont être arrêtées très facilement, notamment du fait de la supériorité aérienne qui permettra aux Britanniques de s'organiser en amont. Par contre, l'attaque de Château-Thierry va être un véritable succès. Ils vont avancer de 40 km face à une partie de l'armée française qui avait refusé de mettre en place la défense en profondeur mise en avant par Philippe Pétain. Et ça, on voit tout de suite que cette défense en profondeur, c'est un élément important. Cette année 1918, sur les attaques des armées allemandes, n'est marquée que par la faiblesse des points du front qui ne sont pas organisés en défense en profondeur. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'encore une fois, la mobilité française va permettre d'endiguer l'avancée. Malheureusement pour les Allemands, aucun point clé ne sera pris. Cette avancée de 40 km sera quasiment inutile, créant même des saillants dans son front. Les Américains vont réussir à repousser une attaque de leur côté. Et nous arrivons en mai 1918, où l'armée allemande, finalement, est essoufflée. Elle n'a plus de troupes de choc. Son artillerie n'arrive pas à se réorganiser de manière efficace, car n'arrive à tirer que de manière massifiée. Et elle va devoir rapidement déchanter face aux attaques alliées. En 2 mois, en août et septembre 1918, les attaques alliées vont réussir à récupérer tout le terrain gagné par les Allemands sur les mois précédents. Grâce à un emploi des différentes troupes sur plusieurs points, de manière très sporadique, sans jamais réellement massifier les attaques, les Allemands vont petit à petit devoir perdre du terrain en étant incapables de s'adapter aux différentes attaques. Ainsi, là où les Allemands attaquaient en masse et demandaient plusieurs mois de préparation dans une attaque, les Alliés sont capables d'attaquer en 1 ou 2 semaines, puisqu'il leur suffit que d'un léger surnombre apporté grâce à la mobilité des canons et des hommes. Petit à petit, en frappant sur plusieurs points, les Allemands reculent. Et c'est là qu'on voit ce dont je vous parlais sur l'art opératif, c'est-à-dire qu'aucune véritable victoire décisive ne sera gagnée. C'est dans son ensemble du front que l'armée allemande s'essouffle, incapable de s'adapter, incapable de voir venir le prochain petit coup. Et à la fin, on se retrouve en septembre sur la ligne Hindenburg. Les Allemands espèrent ici pouvoir les arrêter avec une ligne qui, elle, est véritablement bien mise en place. Ce qu'ils se disent, c'est que leur gain était facile à récupérer puisqu'ils n'avaient pas les mêmes lignes. Mais ici, on est face à la véritable défense en profondeur, celle qui a fait ses preuves dans les années précédentes. Et pourtant, du 26 septembre au 15 octobre 1918, elle s'effondre totalement. Grâce à une attaque coordonnée sur 3 axes, les Français, les Britanniques et les Américains arrivent à prendre la ligne Hindenburg. Celle-ci s'effondre notamment grâce aux différentes tactiques mises en place par les Français et les Britanniques. Les Britanniques, grâce à leur emploi des chars de manière massifiée, qui va réussir à créer plusieurs trous faciles à exploiter et à faire occuper par l'infanterie. Les Français, grâce à leur tactique du feu roulant, qui va complètement désorganiser les replis, comme je vous l'expliquais précédemment. C'est ainsi petit à petit, sur plusieurs petites failles, que la ligne Hindenburg va s'avérer incapable de mener sa mission défensive à bien. Les armées françaises et britanniques vont la faire s'effondrer et les Allemands vont devoir se replier sur une ligne légèrement en arrière, mais qui ne sera pas totalement aussi bien mise en place que la ligne Hindenburg. Ainsi, sur le mois suivant, de septembre à octobre, elle va également tomber, puisque face à une armée efficace, qui a complètement compris ces différentes doctrines et qui est devenue expérimentée, les Allemands ont perdu tout moral et finissent par lâcher prise. C'est le 11 novembre 1918 qu'intervient l'armistice, bien avant de permettre aux armées alliées d'envahir le territoire allemand. Mais ce qu'il faut bien voir ici, c'est que l'armée allemande, elle, n'existe déjà plus. Et ça va me permettre de conclure. Grâce à l'année 1918, ce qu'on peut voir, c'est que l'effort stratégique étant un effort dialectique qui s'adapte à ce qu'on a à notre disposition et à ce que l'adversaire nous oppose, on peut voir que l'énorme effort industriel fourni par les Français aura permis de mettre en place une armée motorisée, extrêmement moderne et donc extrêmement mobile ici. L'emploi de l'aviation Des chars, de l'infanterie, de l'artillerie, tous pensés en un ensemble cohérent, capables de discuter entre eux et d'interagir pour pouvoir s'adapter aux différentes difficultés qu'opposeront les adversaires, va permettre à une armée française extrêmement mobile de détruire une armée allemande beaucoup plus sclérosée, encore dans une pensée de la bataille décisive, qui recherche la massification et qui a certes mis le doigt sur les troupes de choc, mais de manière inutile, puisqu'incapable de l'employer de manière cohérente et surtout incapable de la défendre dans la longueur. Après deux ou trois attaques, ces dernières étaient déjà essoufflées, voire détruites, ce qui empêchera l'armée allemande d'employer finalement sa seule arme dans les trois éléments tactiques qu'elle avait réussi à mettre en place. C'est ainsi que les trois avantages mis en place par les Allemands, la massification de l'artillerie, l'armée d'assaut et la ligne Hindenburg, vont s'avérer incapables de perturber le dispositif allié. Le réseau ferré allemand est trop lisible et trop lent par rapport à l'emploi de l'aviation par les Alliés. En effet, les Allemands n'ont pas eu l'intelligence ou la capacité industrielle de conquérir l'espace aérien. Ensuite, la mobilité française, elle, est beaucoup plus adaptable. D'ailleurs, Ludendorff, le général en chef des forces allemandes, dira que la victoire des Alliés est la victoire des camions français sur le train allemand, ce qui est caractéristique de la fin de cette guerre. Enfin, remarquons que les Français et les Britanniques ont énormément réfléchi, malgré leurs différents échecs, pour enfin intégrer la nouvelle arme principale de ce conflit, le char. Dernier point, l'artillerie, qui, elle, en gagnant en mobilité, va pouvoir enfin se combiner et non plus être un élément extérieur préparant de manière massive un assaut de l'infanterie. Ironie de l'histoire, l'armée française, qui est l'armée la plus moderne du monde en 1918, va rester et s'endormir sur ses acquis, là où les Allemands vont apprendre toutes les leçons des Alliés. Ils vont comprendre que l'artillerie, les chars, l'aviation et l'infanterie doivent être coordonnées. Ce qu'il faut voir, c'est que l'emploi coordonné des différentes armes est ce qui fait la différence. L'infanterie n'est pas séparée de l'artillerie, c'est l'artillerie qui travaille avec l'infanterie. Les chars doivent être soutenus par l'aviation pour pouvoir être réellement impactants sur le champ de bataille. Ceux qui apprendront le mieux la leçon, finalement, ce sont les Américains, et l'Europe le découvrira lors de leur intervention à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la Première Guerre mondiale termine la transition de l'homme à la machine dans l'emploi de la guerre. Si, au début du conflit, la masse de l'homme était vue comme le principal avantage, avec une vision de l'offensive complètement outrancière, on arrive à un emploi cohérent à la fin de la guerre qui permettra d'utiliser le moteur et la mobilité induite par celui-ci de manière très cohérente, très percutante, et qui va directement nous préparer à la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.